Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Mathilde Wagman, Denis Ramon, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Adèle Vanrette. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Olivier Guérin. Avec à la prise de son aujourd'hui, Vincent René.
La nuit.
Laisse-moi danser.
Danser, oh danser. La vie se fait pour danser.
Quatrième et dernier temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à celle que Nietzsche compare tantôt à l'envol de l'oiseau, tantôt à l'innocence de l'enfant ou encore à une fontaine qui jaillit. J'ai nommé la danse. Mais il ne suffit pas de nommer pour dire, pour signifier. La danse, comme l'envol ou le jaillissement, apparaît pour mieux disparaître. Une danse qui s'exécute sous nos yeux meurt dès qu'elle a commencé et si elle recommence, elle ne sera jamais semblable à celle qu'on vient de voir. La danse et ce qu'elle donne à voir, ses œuvres, sont pleins de paradoxes qui la rendent insaisissable et du coup indéfinissable. Mais c'est peut-être ceci la spécificité de l'œuvre chorégraphique, ne pas être saisissable, être indéfinissable. Alors plutôt que de vouloir la faire entrer dans nos cases, plutôt que de vouloir la définir, plutôt que de vouloir la réhabiliter comme œuvre, pourquoi ne pas la prendre comme telle? Pourquoi ne pas la prendre dans toute sa fragilité et faire de cette fragilité son essence même? Passons donc aujourd'hui de l'œuvre au désœuvrement chorégraphique en compagnie de Frédéric Pouillaud.
Quand j'ai lu Beckett, j'ai rencontré en fait quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, au sens où la question du corps en fait est très très présente dans son œuvre, et j'avais affaire avec le corps depuis mon enfance. Sauf que chez Beckett, les corps sont entravés, et que les corps que j'avais rencontrés jusque-là en fait étaient toujours des corps jeunes, beaux, très performants. Et quelque chose me troublait avec cette exclusivité, en fait, sur ces corps-là. Je pensais que, en lisant Beckett, en tout cas, je rêvais de pouvoir travailler sur des corps qui seraient, enfin, sur une danse, en tout cas, qui ne serait pas forcément celle de la performance. Et je pense que c'est Beckett qui m'a beaucoup aidé à ça.
En raison de leur imminente permanence, les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde. Leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels, puisqu'elles ne sont pas soumises à l'utilisation qu'en feraient les créatures vivantes. Nulle part, la durabilité du monde n'apparaît avec autant de clarté. Nulle part, par conséquent, ce monde d'objets se révèle de façon aussi spectaculaire comme la patrie non mortelle d'êtres mortels. Tout se passe comme si la stabilité du monde se faisait transparente dans la permanence de l'art, de sorte qu'un pressentiment d'immortalité, non pas celle de l'âme ni de la vie, mais d'une chose immortelle accomplie par des mains mortelles, devient tangible et présent pour resplendir et qu'on le voit, pour chanter et qu'on l'entende, pour parler à qui voudra lire. Bonjour Frédéric Pouillaud.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier temps de notre semaine consacrée à la danse. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, directeur du centre Victor Bache Recherche en esthétique et philosophie de l'art et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes surtout l'auteur, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du désœuvrement chorégraphique, étude sur la notion d'œuvre en danse paru aux éditions Vrin et vous avez contribué aussi, je le signale, à l'ouvrage collectif Philosophie de la danse, disponible aux presses universitaires de Rennes avec un article intitulé « L'œuvre chorégraphique, ni autographique, ni allographique ». Alors Frédéric Pouillaud, je viens de lire un extrait de La condition de l'homme moderne d'Anna Arendt qui date de 1958. Plus précisément, c'est un extrait de la permanence du monde et l'œuvre d'art Et juste avant, nous avions entendu la voix de la chorégraphe Maggie Marin. C'était en 2012 sur France Culture. Elle parlait de sa création Maybe, de l'inspiration qu'elle avait trouvée dans Beckett et notamment dans son rapport au corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette création Maybe est un exemple exceptionnel de la longévité au sein de la création contemporaine. On est donc ici en plein cœur du sujet que pose l'œuvre chorégraphique. C'est que d'un côté, l'œuvre d'art, selon Arendt, se caractérise par sa survivance, par le fait qu'elle dure, par sa permanence. Et pourtant, avec la danse, il est exceptionnel, comme pour la création de Maggie Marin, qu'elle dure dans le temps. Alors à quoi doit-on attribuer cette impermanence de l'œuvre chorégraphique? Est-ce que c'est parce qu'elle puise justement dans les corps, comme le fait Maggie Marin avec Beckett, et sa fascination pour les corps malades et non plus performants? Frédéric Pouilloude.
Je crois que vous avez parfaitement résumé la difficulté propre à l'œuvre chorégraphique et dans votre propos et dans l'association tout à fait signifiante des paroles de Maggie Marin et de ce texte de Arendt. Le discours d'Arendt sur la permanence de l'œuvre ou l'idée que l'œuvre d'art c'est ce qui... au monde est le plus permanent, le plus durable, ce qui nous survivra toujours et qui fait que l'environnement humain est plus stable que nos propres vies. Ce discours d'Arendt, au fond, c'est la pointe extrême ou la radicalisation d'une exigence peut-être plus minimale, mais en tout cas inhérente au concept d'œuvre, qui serait celle d'une durabilité minimale. Il me semble que le projet d'œuvrer, de produire des objets artistiques, inclut ipso facto un horizon de durée minimale. Et c'est face à ce critère ou cette exigence de durabilité, de permanence, de possibilité de réitération, bref, de possibilité d'intégrer une sorte de répertoire ou de patrimoine, que l'œuvre chorégraphique, pour tout un tas de raisons qu'on peut développer, se heurte à un grand nombre de difficultés.
Allez-y, je vous en prie, développez.
Alors... En premier lieu, l'œuvre chorégraphique présente cette particularité d'être un art du temps, qui fait donc de l'événement présent et de la temporalité sa matière même, un art du temps quasiment dépourvu de système d'écriture. Il est dépourvu de système d'écriture, c'est un jugement un peu rapide, mais en tout cas on peut dire que les différents essais de création de systèmes de notation chorégraphique, d'écriture du mouvement, ne se sont jamais véritablement intégrés aux pratiques chorégraphiques. C'est ça le point au fond essentiel à retenir, c'est que alors que la musique occidentale dès ses plus hautes origines, a tendu à s'identifier à son propre système de notation, au point que lire et écrire, ce sont les synonymes de jouer et composer, eh bien, en danse, les différents systèmes d'écriture du mouvement, au fond, sont toujours restés extérieurs aux pratiques. Pour prendre un exemple contemporain, l'un des systèmes aujourd'hui le plus développé, c'est le système de la Laban notation de Rudolf von Laban.
Alors peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un système de notation en danse, quelle forme ça peut prendre?
Alors, il existe ou il a existé au cours de l'histoire de la danse scénique occidentale un nombre tout à fait vertigineux de systèmes de notation du mouvement, ce qui est déjà l'indice d'un certain échec ou du moins d'une difficulté, parce que si les systèmes se succèdent les uns aux autres, c'est qu'au fond, aucun n'a jamais été véritablement satisfaisant. Et l'enjeu d'un système de notation du mouvement, c'est au fond... de transcrire sur une page de papier et avec des instruments graphiques les paramètres essentiels du mouvement qui sont d'un côté les différentes parties du corps et de l'autre les directions spatiales et le temps. À partir de là, différents systèmes sont possibles, soit des systèmes qui vont être de type planimétrique, c'est-à-dire projeter sur la page l'espace de la salle où l'on danse et représenter, par exemple, directement le chemin des danseurs sur la page, à peu près comme on le ferait sur une carte de géographie ou sur un plan. C'est par exemple le cas du système Feuillet, qui date du XVIIIe siècle, qui s'invente en 1700, et à qui on doit la conservation de tout ce qu'on connaît à propos de la danse baroque, et à qui on doit au fond le revival baroque des années 70-80. Et ce système, par exemple, Feuillet, lui, a connu une intégration pratique et un succès absolument formidable au XVIIIe siècle, parce que, au fond, il ne faisait que projeter dans l'espace graphique de la page les catégories pratiques de la danse de l'époque. Il y avait une sorte de caractère intuitif dans les signes qui était lié au fait qu'il était parfaitement immanent aux pratiques.
Mais le problème de la danse est finalement de l'inscription sur le papier ou de l'inscription tout court, en fait, des œuvres chorégraphiques pose le problème effectivement de la définition de l'œuvre dans la danse, mais dans le sens où effectivement il n'y a pas de corpus à consulter, il n'y a pas de bibliothèque du mouvement, c'est une expression que vous employez dans votre ouvrage. À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler encore d'œuvre en chorégraphie, d'œuvre chorégraphique, d'œuvre en danse et déjà, est-ce que la danse relève déjà de l'œuvre? Est-ce que c'est une œuvre après tout? Est-ce que c'est une œuvre qui n'est pas comme les autres, différente des œuvres habituelles qu'on définit en esthétique. Et à ce moment-là, il faudrait déjà tomber d'accord sur une définition. Ou est-ce que ce n'est pas une œuvre du tout?
Alors, je pense que ça serait à la fois une facilité et une outrance que de dire que l'œuvre chorégraphique, au fond, n'est pas une œuvre ou que... pour décalquer une formule de Foucault, la danse, c'est l'absence d'œuvre. Ça serait une facilité, même si c'est tentant à certains égards, parce que l'idée d'absence d'œuvre rejoint malgré tout une expérience immédiate que chacun peut faire de la danse, de ce que c'est que danser, à savoir... que ce soit tout seul la nuit dans mon salon, en boîte ou au bal populaire, une expérience intensifiée du présent, une expérience de la dépense, de l'énergie dépensée en pure perte.
C'est-à-dire que la danse ne produit rien, c'est-à-dire qu'il n'en reste rien.
C'est en tout cas à la fois l'expérience que chacun peut en faire, et peut-être c'est là qu'il y a une sorte d'articulation très intime et existentielle que l'on peut avoir à la danse comme expérience presque bataillenne de la dépense, du présent, de ce qui sera consumé sans retour. Et c'est aussi, malheureusement peut-être, l'image très fréquente que un certain nombre de philosophes ou poètes ou écrivains s'en sont faites. La danse comme fantasme d'une sorte d'au-delà de l'œuvre, d'au-delà de l'art comme production quasi artisanale d'objets bien finis, stables, ficelés.
Alors, c'est pas véritablement un fantasme.
Eh bien, ça devient un fantasme, dirais-je, lorsque cette image conduit à oblitérer complètement les pratiques chorégraphiques réelles et l'histoire des œuvres qui, malgré tout, existent. Quand on en vient à dire que la danse, au fond, c'est un au-delà de l'esthétique ou de l'artistique, que c'est une sorte d'expérience infra- ou supra-artistique, quand on dit, par exemple, comme Badiou, que la danse n'est pas un art, mais la possibilité de l'art, ou le signe de la possibilité de l'art. Quand on dit tout cela, au fond, on ne peut le dire qu'à la condition de ne jamais aller voir un spectacle de danse et de ne pas s'intéresser à la production empirique. Et c'est pour cela que, à mon avis, il ne faut pas dire que l'œuvre chorégraphique n'existe pas ou que le concept d'œuvre est inadéquat pour penser la danse. Il faut plutôt penser ce qu'il y a de réellement spécifique et problématique dans ces œuvres chorégraphiques, qui certes ne se... thésaurise pas, ne se consigne pas dans des bibliothèques, dans des partitions, etc. Mais qui, malgré tout, existent, se transmettent plus ou moins bien et constituent des histoires.
Donc plutôt que de renoncer au concept d'œuvre, il s'agirait de, non pas de faire rentrer la danse dans ce concept-là, mais de voir en quoi la danse met à l'épreuve ce concept d'œuvre.
Absolument.
Et comment elle met à l'épreuve les caractéristiques de ce concept. Mais alors, comment on définit ce concept? Qu'est-ce qui tombe sous le concept d'œuvre en esthétique?
Alors,
il y a la permanence, l'objet survivant dont Hannah Arendt parle.
Il me semble qu'on peut proposer deux grandes caractéristiques ou deux grands réquisites pour qualifier un objet artistique d'œuvre. Alors, on a parlé à l'instant de la durabilité, le fait que l'œuvre engage un horizon temporel qui, au fond, doit dépasser ou transcender nos propres existences. Et second élément, mais qui au fond est presque en amont, celui de la publicité, du caractère public de l'objet. Tout simplement le fait qu'une œuvre, si l'on parle d'œuvre, eh bien, il ne s'agit pas ni d'une pensée, ni d'une sensation, ni d'une expérience privée. Une œuvre, ça existe dans l'espace public et partagé. Et si l'on garde ces deux réquisites, on peut examiner comment les pratiques chorégraphiques, au fond, ont pu ou n'ont pas pu se qualifier aussi bien comme objet public que comme objet durable. Et du côté de la publicité, de la question de l'œuvre chorégraphique comme objet public, on aborde évidemment immédiatement la question du spectacle et de son statut, plus ou moins mineur ou fragile, au sein de la hiérarchie des arts.
Et c'est une question que Stéphane Mallarmé va aborder dans un texte qu'on écoute maintenant.
L'unique entraînement imaginatif consiste, aux heures ordinaires de fréquentation dans les lieux de danse, sans viser quelconque préalable, patiemment et passivement, à se demander devant tout pas chaque attitude si étrange, ses pointes étaquetées, allongées au ballon, que peut signifier ceci? Ou mieux, d'inspiration, le lire. À coup sûr, on opérera en pleine rêverie, mais adéquate, vaporeuse, nette et ample, ou restreinte, telle seulement que l'enferme en ses circuits ou la transporte par une fugue, la ballerine illettrée se livrant au jeu de sa profession. Oui, celle-là, serais-tu perdue en une salle, spectateur très étranger, ami, pour peu que tu déposes, avec soumission à ses pieds d'inconsciente révélatrice, ainsi que les roses qu'enlève et jette dans la visibilité des régions supérieures un jeu de ses chaussons de satin pâle et vertigineux, la fleur d'abord de ton poétique instinct, n'attendant de rien autre la mise en évidence et sous le vrai jour des mille imaginations latentes. Alors, par un commerce dont paraît son sourire verser le secret, sans tarder, elle te livre à travers le voile dernier qui toujours reste, la nudité de tes concepts et, silencieusement, écrira ta vision à la façon d'un signe. Quelle est ?
Frédéric Pouliot, dont vient d'entendre un extrait des Divagations crayonnées au théâtre qui date de 1897 de Stéphane Mallarmé. C'est un extrait lu par Jean-Louis Jacopin. Et dans ce texte que vous allez tenter de déchiffrer pour nous, car il est assez compliqué, il faut le dire, Mallarmé évoque la dimension que vous aviez évoquée juste avant, celle de la dimension publique de l'œuvre, du statut d'œuvre, enfin du concept d'œuvre. Et la question qui se pose aussi pour la danse, qui est effectivement en quoi la danse pose problème dans cette dimension-là, alors même que la danse est d'abord un spectacle qui se regarde.
Alors, ce qu'il y a d'absolument fascinant dans les textes de Mallarmé sur la danse, essentiellement les textes de Crayonnet au théâtre, c'est qu'il s'intéresse en premier lieu au spectacle de danse. Et en s'intéressant au spectacle de danse, il va éprouver une sorte de jubilation à nommer les lieux, les danseuses, les œuvres, sachant pertinemment que ces noms, l'Eden Théâtre, ça fait rêver l'Eden Théâtre, Viviane, la Cornalba, les deux pigeons, tous ces noms sont au fond des noms relativement impurs, mineurs, faisant partie du bric-à-brac de l'industrie du divertissement à la fin du 19e siècle. Et il jubile à nommer cette empiricité de la danse qui est très loin d'une figure abstraite et philosophique de l'expérience du mouvement comme expérience du corps libéré ou je ne sais trop quoi. Il prend une jubilation à nommer ces lieux mineurs et impurs en acceptant premièrement le fait que si la danse est un art, eh bien, c'est dans ces lieux-là et sous ces formes-là qu'on peut y avoir affaire, et deuxièmement, en faisant le pari que derrière cette minorité ou cette impureté, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus fort qui, au fond, requiert le poète. Qui requiert le poète, et c'est là que Mallarmé, au fond, devient une sorte de lecteur ou de déchiffreur du spectacle, c'est le sens du texte, qui est, au fond, quand même un peu ambigu. D'un côté, Mallarmé nous dit que derrière chaque geste de la danseuse, il y a comme une sorte d'idéogramme ou de signe à déchiffrer. Et donc, la danse, c'est produire des signes en mouvement, au fond.
Mais des signes qui seraient à déchiffrer.
Voilà. Et c'est l'autre côté, à déchiffrer, mais à déchiffrer par qui ? Au fond, par le poète. Et c'est la rêverie du poète qui créera une sorte de transsubstantiation.
Qui viendra donner sens au spectacle qu'il est en train de regarder.
Et c'est au fond la critique qu'on pourrait faire à Mallarmé, mais ce n'est pas à peine une critique.
Mais avant de lui faire une critique, il faut quand même lui reconnaître une chose pour penser l'œuvre chorégraphique ou le désœuvrement chorégraphique. C'est que pour rendre cette dimension négative de l'œuvre chorégraphique, c'est-à-dire pour rendre positive la dimension négative de l'œuvre chorégraphique qui, à la base, pose problème en tant qu'objet public, en tant qu'objet qui ne dure pas. Deuxièmement, il pose quand même il va essayer de saisir l'œuvre chorégraphique dans sa dimension scénique,
absolument,
dans sa dimension spectaculaire, quelque absolument chose qui est très peu mis en avant par les philosophes, qui est plutôt dévalué. Voilà. Et la deuxième chose, et vous venez de l'évoquer, c'est aussi l'idée de signification qui est à l'œuvre. Quand on regarde un spectacle, l'imaginaire du public est mis en branle. Il y a comme ces deux dimensions-là que Mallarmé met en place et permet d'évaluer positivement le désœuvrement chorégraphique.
Absolument, c'est ce qui, je crois, fait de Mallarmé un très grand penseur de la danse à la fin du 19e siècle et au fond le premier à véritablement penser la danse dans sa réalité artistique et empirique la plus juste. Et en cela, par exemple, il se différencie profondément de quelqu'un comme Paul Valéry, qui, quelques dizaines d'années plus tard, au fond, évacue complètement cette dimension scénique de la danse et s'intéresse exclusivement à la danse comme expérience intime. La danse, à l'expérience de la danse, à ce que c'est que danser pour celui ou celle qui danse et surtout pour celle qui danse. Il s'intéresse à l'expérience de la danseuse.
Avec Mallarmé, avec Valéry, on est dans l'intériorité de la danseuse, alors qu'avec Mallarmé, on peut dire qu'on est dans l'extériorité
absolument
du public qui regarde
absolument
une
c'est
œuvre
exactement
chorégraphique.
Ça, et alors que chez Valéry, il y a une sorte de fantasme presque voyeuriste qui consiste à regarder une femme en train de danser, c'est-à-dire au fond en train de jouir, avec un vocabulaire des fois extrêmement étonnant chez Valéry. Il y a pages presque pornographiques, de très belles pornographies, mais c'est ça. Donc alors que chez Valéry, on est dans une sorte de fantasme de voyeurisme qui convoque l'idée d'intimité et d'intériorité, chez Mallarmé, on reste tout le temps dans la surface et l'extériorité. Dans le texte qui a été lu, cette formule que je trouve absolument magnifique, on regarde le spectacle à travers le voile dernier qui toujours reste. Chez Valéry, la danseuse est au fond très vite dénudée. Chez Mallarmé, il y a toujours un voile qui reste. Aussi nue qu'elle puisse être, il y aura un voile. Parce que, au fond, pour Mallarmé, l'expérience intime de la danseuse, ça ne l'intéresse absolument pas. Il s'intéresse à la danseuse comme signe, surface, dispositif d'écriture.
Mais ce qui est intéressant dans cette idée aussi de signe, c'est que d'un côté, la danseuse se livre dans sa nudité, dans sa pauvreté même, dit-il à certains moments. Pourtant, elle a quand même un voile. Donc, il y a quand même toute une dialectique chez Mallarmé dans la danse entre d'un côté la surface. Il réhabilite l'œuvre chorégraphique comme un spectacle qui se voit. Ça veut dire qu'il le réhabilite aussi comme un spectacle populaire. Il n'y a pas que le poète qui peut lire un spectacle de danse. Mais du coup, comment on va d'un côté, comment on articule dans l'œuvre chorégraphique, d'un côté, ce déchiffrage d'aller plus loin en fait que la surface et en même temps cette réhabilitation de la surface. Parce que c'est ça aussi la dimension positive du désœuvrement chorégraphique. C'est que un spectacle de danse, c'est d'abord une surface qui se regarde.
Absolument. En même temps, c'est là où on peut peut-être amorcer une critique de Mallarmé. Je ne suis pas sûr que l'idée, par exemple, d'auteur chorégraphique ou d'écriture chorégraphique en tant que réelle production artistique fasse beaucoup sens chez lui ou pour lui. La danse fait malgré tout partie de ces productions mineures, comme les spectacles forains, les feux d'artifice et d'autres choses, qui sont absolument capitales pour lui dans la mesure même de leur minorité. Et c'est en ce sens que c'est au fond parce que la rêverie du poète va s'emparer de ces objets qu'ils vont devenir signifiants, sur un mode signifiant très problématique, généralement vide, sans narration, sans contenu, parce que le contenu, il est toujours nul. Et donc, pour commencer à véritablement parler d'œuvres chorégraphiques qui déploieraient une signification même très obscure ou chiffrée, je pense qu'il faut aussi mettre à distance ce modèle mallarméen.
Oui, parce que le problème de Mallarmé, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il considère l'œuvre chorégraphique non pas en tant que telle, mais pour ce qu'elle représente de mineur, d'obscène. Finalement, il s'intéresse plus à la dimension, à ce qui déborde la danse, plutôt qu'à l'œuvre chorégraphique en elle-même.
Oui. Outre le caractère mineur qui ne peut que réjouir Mallarmé, c'est aussi le modèle d'une écriture spatiale. Un fantasme d'écriture débarrassé de l'appareil du scribe, comme il dit. Mais là encore, toutes ces choses-là se passent dans le dos de la danse, si je puis dire, ou dans le dos de la danseuse et du chorégraphe. Et c'est peut-être plutôt avec quelqu'un comme Marteau que l'on retrouvera peut-être une réelle pensée autonome du spectacle.
Le spectacle. Tout spectacle contiendra un élément physique et objectif sensible à tous. Cris, plaintes, apparitions, surprises, coups de théâtre de toutes sortes, resplendissement de la lumière, beauté incantatoire des voix, charme de l'harmonie, couleur des objets, rythme physique des mouvements dont le crescendo et le decrescendo épousera la pulsation des mouvements familiers à tous, apparition concrète d'objets neufs et surprenants, masques, mannequins de plusieurs mètres, changement brusque de la lumière, etc. La mise en scène. C'est autour de la mise en scène, considérée non comme le simple degré de réfraction d'un texte sur la scène, mais comme le point de départ de toute création théâtrale, que se constituera le langage type du théâtre. Et c'est dans l'utilisation et le maniement de ce langage que se fondera la vieille dualité entre l'auteur et le metteur en scène, remplacée par une sorte de créateur unique, à qui incombera la responsabilité double du spectacle et de l'action. Le langage de la scène. Il ne s'agit pas de supprimer la parole articulée, mais de donner aux mots à peu près l'importance qu'ils ont dans les rêves. Pour le reste, il faut trouver des moyens nouveaux de noter ce langage, soit que ces moyens s'apparentent à ceux de la transcription musicale, soit qu'on fasse usage d'une manière de langage chiffré. En ce qui concerne les objets ordinaires, ou même le corps humain, élevé à la dignité de signe, il est évident que l'on peut s'inspirer de ces caractères hiéroglyphiques, non seulement pour noter ces signes d'une manière lisible et qui permettent de les reproduire à volonté, mais pour composer sur la scène des symboles précis et lisibles directement.
J'ai découvert tout le mouvement lettriste, absolument passionnant et injustement oublié, je trouve. Et puis un texte spécifique d'Isidore Isou, qui est donc le manifeste de la danse ciselante, où effectivement, au travers de ses 14 petits ballets, il dynamite complètement et l'histoire de la danse et la danse elle-même, puisque c'est son principe, hein, exploser les pratiques en particules.
Nous pensons que les positions anciennes, classiques, sont trop grossières parce qu'elles englobent du premier coup le corps entier, c'est-à-dire les positions de jambes et de gestes à la fois. Nous avons pensé donc qu'il faut faire exactement comme les atomistes qui ont brisé l'atome pour en trouver les électrons et recommencer une reconstruction totale du monde. Donc nous avons énuméré toutes les particules de cils, de doigts, d'orteils, etc. C'est ainsi que peut-être un certain nombre d'éléments qui semblent laids, invisibles jusqu'à présent, deviennent des valeurs d'une intensité ou d'une complexité inouïe.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h32, c'est le quatrième et dernier temps déjà de notre semaine consacrée à la danse. Et nous sommes aujourd'hui à la recherche de l'œuvre chorégraphique en compagnie de Frédéric Pouillaude, auteur du Désœuvrement chorégraphique paru chez Vrin et d'un article sur l'identité autographique et allographique de l'œuvre chorégraphique paru dans l'ouvrage collectif Philosophie de la danse, disponible aux Presses universitaires de Rennes. Frédéric Pouillaude, nous avons entendu trois choses. D'abord, un texte d'Antonin Artaud, lu par Jean-Louis Jacopin. C'était extrait du Théâtre et son double, qui date de 1938. Dans ce texte, Antonin Artaud définit trois caractéristiques du théâtre. D'un côté, d'abord le spectacle, ensuite la mise en scène, et enfin, le langage de la scène. Puis on a ensuite entendu un extrait d'Olivia, une archive d'Olivia Granville. C'était sur France Culture en 2013, dans l'émission La Vignette d'Aude Lavigne. Et la chorégraphe Olivia Granville dit s'être inspirée d'Isidore Isou et de sa danse ciselante. Et ce que permet de problématiser Antonin Artaud par rapport à ces deux autres archives, c'est d'un côté le texte, le primat du texte que veut complètement faire tomber Antonin Artaud pour privilégier le corps. Et chez Olivia Granville, on retrouve cette tension-là. D'un côté, elle s'inspire d'un texte, celui d'Isidore Isou, et en même temps, elle s'inspire d'un texte qui insiste sur le corps. Alors comment on peut articuler dans l'œuvre chorégraphique d'un côté ce primat du texte duquel il s'agirait de s'émanciper pour finalement insister sur le corps qui est véritablement le centre de la danse, Frédéric Pouillaude.
Alors, ce qu'il y a de fascinant avec les textes d'Artaud, c'est que ils contiennent parfaitement cette tension que vous avez exposée entre, d'un côté, l'idée que la scène, c'est au fond la spécificité du présent, de l'événement, du live, comme on dirait aujourd'hui, et donc tout ce qui devrait ne pas être répété, ce qui est un présent absolument singulier et unique. Et puis, de l'autre côté, en même temps, l'exigence que cette scène, elle soit absolument réglée, codifiée, écrite, etc. Donc, en d'autres termes, la tension que vous avez mentionnée entre le corps comme présence singulière, d'un côté, et le texte, de l'autre, comme principe de répétition. Et Artaud, dans sa volonté de produire un langage de la scène parfaitement autonome, comme il dit, le langage pur de la scène, d'un côté, révoque évidemment le texte théâtral classique, mais révoque au fond tout ce qui pourrait commander la scène à distance, tout ce qui serait dans un rapport transcendant par rapport à la scène, donc une partition, un texte verbal, une histoire, au nom d'un langage de la scène parfaitement immanent. Et dans le même temps, et on l'a aussi entendu dans le texte cité, il ne cesse d'insister sur le caractère extrêmement réglé, presque mathématique ou géométrique de ce langage scénique. Il a pour modèle les danses balinaises qu'il a vues à l'exposition coloniale. Et il aboutit même à l'idée d'une écriture chorégraphique. Il dit qu'il faudra trouver un langage chiffré pour ce langage, une forme d'écriture chiffrée pour ce langage autonome. Et au fond, cette tension immanente au texte d'Artaud, elle ne cesse de traverser toute l'histoire chorégraphique du XXe siècle. À la fois la recherche d'une autonomie pour le mouvement et le corps, qui ne serait plus qui serait autre chose qu'un simple adjuvant d'un texte ou d'une histoire.
Ou le support, effectivement, d'une signification qu'il dépasserait.
Donc, d'un côté, la recherche de cette autonomie, et de l'autre, la volonté ou la nécessité d'une fixation, d'une écriture, sans quoi on est dans la performance, le happening, mais peut-être pas dans l'œuvre et l'écriture. Au passage, toujours pour rester sur Artaud et le théâtre d'Artaud, je crois que Derrida, dans la lecture qu'il en fait, dans l'article de l'écriture et la différence, donc l'article « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation », Derrida, au fond, fait presque une sorte de faux procès à Artaud. Il prend appui sur Artaud pour relever chez lui une sorte de dernier avatar de la métaphysique de la présence, de l'attachement à l'idée que la vérité ou l'être, c'est l'être présent. Et donc, tout le discours d'Artaud sur la nécessité de libérer le théâtre de la répétition, du texte, se trouve chez Derrida, reversé, au fond, à une sorte de manifestation tardive et un peu atypique de la métaphysique de la présence. Or, il me semble que Derrida rate complètement l'autre versant qu'on trouve aussi chez Artaud, qui est cette problématique de l'écriture, qui est vraiment intégralement présente, noir sur blanc, et qui fait aussi partie pleine et entière du théâtre de la cruauté. La cruauté, c'est cette rigueur quasi mathématique de l'écriture.
En fait, il veut délaisser un certain type de texte pour en proposer un nouveau. Alors, quel est véritablement ce nouveau langage qu'il propose ? Alors, il parle d'un langage théâtral pur. Alors déjà, il faut quand même préciser qu'on est quand même dans le domaine du théâtre. On n'est pas dans le domaine de la danse. Et alors, même si Artaud précise que ce langage théâtral pur, en fait, va fonctionner sous forme de hiéroglyphes, une écriture non phonétique, mais de l'ordre de l'idéogramme, qui rendrait, en fait, son importance à la spatialité du tracé plutôt qu'à la voix, on reste quand même dans le domaine du théâtre et on a du mal à voir quelle forme pourrait prendre ce langage. D'un côté, ça paraît évident de se dire, à la spatialité du tracé, évidemment, alors on va dessiner une danseuse qui fait une pirouette et ça représentera une pirouette.
Il y a deux choses, je crois, dans votre question. Il y a d'un côté la nature de ce langage scénique autonome dont parle Artaud, qui, au fond, pour moi, mais là, c'est peut-être une projection personnelle, a toujours plus ou moins correspondu à un spectacle de danse. Parce que quand il fait la liste des éléments de ce théâtre pur ou autonome, il s'agit de gestes, de tracés dans l'espace, de décors, de costumes, de cris, éventuellement de mots, mais complètement vidés de leur sens. Et au fond, tous ces éléments ou ces ingrédients ressemblent peu ou prou à un spectacle de danse contemporaine. Donc ça, c'est le premier versant. Quelle est la nature de ce langage scénique autonome? Au fond, au risque d'être un peu cavalier, je dirais que le spectacle de danse contemporaine est peut-être un assez bon exemple de cela. L'autre question que vous posez, c'est celle de l'écriture ou de comment noter ou consigner ce langage. Et alors, évidemment, Artaud n'a jamais élaboré quelque système que ce soit, et il propose, à titre plus d'énigme qu'autre chose, à mon avis, le modèle du hiéroglyphe ou de l'idéogramme, qui ne fait au fond que rajouter une couche à la fois de mystère et de sacralité dans cette écriture-là, mais qui n'aboutit évidemment pas à grand-chose. Après, si on s'intéresse aux deux autres extraits qui ont été passés, qui en un sens ont un lien direct à travers cette question de l'écriture chorégraphique ou de la notation, ce qu'il y a de frappant dans le travail d'Olivia Granville, donc c'était un spectacle qui a maintenant 3-4 ans, intitulé Le cabaret discrépant, où Olivia Granville reprenait un certain nombre de pièces chorégraphiques des années 60 qui avaient été initié, proposé par le groupe Lettris, et donc essentiellement Isidore Isou et Maurice Lemaître. Et Isou comme Lemaître, proposait des expérimentations chorégraphiques absolument invraisemblables pour l'époque, très proche de ce qu'aujourd'hui on a pu appeler la non-danse, un ballet de l'immobilité, un ballet des cheveux, un ballet des éléments liquides du corps humain, enfin bon, tout un tas de choses absolument invraisemblables pour l'époque. Mais surtout, ils avaient pensé dès le départ, non pas un système de notation, mais un rapport très fort à la notion de partition. C'est-à-dire que si Olivia Granville a pu reprendre toutes ses pièces, c'est tout simplement parce que Isou, comme Lemaître, ont publié très rapidement leur ballet sous forme de partition verbale.
Quand je dis que je ne jouerai pas de pièces écrites, je veux dire que je ne jouerai pas de pièces basées sur l'écriture et la parole. Qu'il y aura dans les spectacles que je montrerai une part physique prépondérante, laquelle ne saurait se fixer et s'écrire dans le langage habituel des mots. Mais tous ces tâtonnements, ces recherches, ces chocs aboutiront tout de même à une œuvre, à une composition inscrite, fixée dans ses moindres détails et notée avec des moyens de notation nouveaux. La composition, la création, au lieu de se faire dans le cerveau d'un auteur, se feront dans la nature même, dans l'espace réel, et le résultat définitif demeurera aussi rigoureux et déterminé que celui de n'importe quelle œuvre écrite, avec une immense richesse objective en plus.
C'est une création, puisqu'il s'inscrit dans cette espèce de flopée de sacres qui se sont faits depuis celui inaugural de Nijinsky en 1913. Donc il y a eu un nombre de sacres qui, en 2008, se comptait autour de 200-220 sacres. Et donc le 197 est venu après l'aventure avec Yann Kounen du film Chanel et Stravinsky, pour lequel il m'a proposé de créer différents extraits de la chorégraphie.
2008-2010, hein,
c'est ça, c'est sorti en 2010, mais ça a été tourné en fin 2008. Ce travail inaugural a soulevé beaucoup de questions chez moi, des questions que j'avais déjà travaillées avec d'autres interprètes, avec qui on avait travaillé à la relecture d'œuvres chorégraphiques, et notamment les questions d'authenticité, de vérité de l'œuvre chorégraphique? Est-ce qu'on peut refaire une œuvre? Est-ce qu'on peut la reconstruire à l'identique?
Frédéric Pouillot, je viens de lire un extrait, c'était la deuxième lettre sur le langage d'Antonin Artaud, encore qui date de 1932, puis on a entendu la voix de la chorégraphe Dominique Brun qui parle de sa création Sacre 197, dans lequel en fait elle parle de la difficulté à cerner une source pour créer une œuvre telle que le Sacre du printemps, et elle parle des différentes versions. Et en essai, avec l'œuvre chorégraphique, on a ce problème de l'inscription de l'œuvre, de sa survie dont on parlait au départ dans le temps. Mais on voit que l'œuvre chorégraphique met à l'épreuve des notions telles que la répétition, le modèle. Et peut-être qu'on devrait privilégier la notion plutôt de version pour parler de l'œuvre chorégraphique. Frédéric Pouillot, vous avez 1 minute 15 pour répondre.
Alors, c'est un peu un challenge, mais... La notion de version est effectivement devenue presque constitutive des pratiques chorégraphiques. Elle l'est constitutive au sein des pratiques de danse classique, au sein du ballet, puisque pour une œuvre appelée Le Lac des Cygnes, on doit avoir une quinzaine de versions concurrentes à travers le monde à l'heure actuelle, alors que ce sont sur les affiches et les programmes les mêmes chorégraphes d'origine, hein, c'est pas des adaptations. Donc il y a ces structures d'œuvres à version au sein du répertoire classique et au sein même du répertoire moderne ou contemporain. Prenons simplement l'exemple du Sacre du printemps. Alors là, je parlerai peut-être pas de version, mais plutôt de relecture successive. À l'époque où Dominique Brun, donc il n'y a pas très longtemps, proposait son Sacre 197, on en était donc à la 187e version ou relecture du Sacre du printemps. Après, est-ce que c'est vraiment un mode de survie adéquat? C'est plutôt un mode de métamorphose et de création continuée. Et ça ne laisse pas pour autant, enfin, ça ne doit pas occulter pour autant la question de la survie de l'œuvre d'origine, en l'occurrence, soit le Sacre du printemps de Nijinsky, soit un autre exemple d'un an antérieur, l'Après-midi d'un faune. L'Après-midi d'un faune a eu l'immense chance d'être noté par Nijinsky lui-même. C'est un cas rarissime où le chorégraphe a noté lui-même sa partition. On a une partition autographe. Il ne l'a pas fait pour le Sacre du printemps, d'où les immenses difficultés que nous avons à le reconstruire aujourd'hui.
Merci beaucoup Frédéric Pouillot. J'étais ravie de clore cette dernière semaine des nouveaux chemins consacrés à la danse avec vous. De vous d'ailleurs, je rappelle que l'on peut lire le désœuvrement chorégraphique paru aux éditions Vrin, l'article paru dans l'ouvrage collectif Philosophie de la danse disponible aux presses universitaires de Rennes, article intitulé L'œuvre chorégraphique, ni autographique ni allographique. Et puis, chers auditeurs, lisez en guise de lecture de vacances, pourquoi pas, Le théâtre et son double d'Antonin Artaud et les divagations de Mallarmé, disponible chez Gallimard. Mais surtout, regardez de la danse. L'équipe des Nouveaux Chemins a mis des vidéos de danse sur ses pages Facebook et Twitter. C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui et pour cette saison 2013-2014. Enfin, pas tout à fait, car demain, à l'occasion d'une journée spéciale qu'organise France Culture, tout est chamboulé. Demain, vous retrouverez donc Martin Kenen au micro à 10h. Martin qui évoquera avec Dan Arbib la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, mais aussi toutes les émissions de l'année pendant tout l'été, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne et la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, à la mer ou au vert. Et comme c'est quand même un peu la dernière aujourd'hui de la saison, j'en profite pour remercier chaudement tous ceux qui ont parcouru passionnément les Nouveaux Chemins cette année. Mathilde Wagman, Denis Ramon, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Jean Danielou, Valentin Schmitt, nos deux chargés de réalisation préférés, Mydia Portis-Guérin et Olivier Guérin, mais aussi Georges Clès et Jean-Louis Jacopin, et bien sûr Adèle Van Rett.